erreicht haben, dass Deserteure nicht abgeschoben werden. Und die jetzt drohenden massiven Abschiebungen, also es sind wirklich eben 16.000, diese Zahl, die sagt eigentlich schon, in anderen Städten sind es ja nicht weniger, die haben dazu geführt, dass zumindest in den ohnehin sensibilisierten Kreisen wie Kirchenkreise, Friedensgruppen, Kriegsdienstverweigerungsgruppen und Ähnliches also wirklich auch mobilisiert wurde und dass sich da endlich mal übergreifend koordiniert wurde. Und da wird jetzt also auch regiert, allerdings eben in den Möglichkeiten, die bestehen. Der Spielraum ist, wie gesagt, nicht sehr groß. Eine spezielle Rolle spielt dabei das Kirchenasyl, wo also diese Kirchengruppen unheimlich aktiv geworden sind und sich organisiert haben, um Kirchenasyl zu bieten, obwohl die oberen Schichten der Kirchenorganisationen da also weniger mit einverstanden sind oder sich zumindest nicht klar dazu äußern. Eine andere Möglichkeit, in dieser Situation mit wenig Spielraum eben doch zu reagieren, ist also der Appell von Basel, der auch in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, sehr offen aufgenommen wurde, weil viele Leute eben auch erkennen, dass da eine Möglichkeit besteht, mit dem Problem umzugehen. Und so gab es eben bis jetzt in Erfurt, Rostock, Jena und Schmölln Beschlüsse, die sich dem Ganzen erstmal zumindest politisch und moralisch anschließen. Und Anträge laufen in anderen Städten. Lässt sich also sagen, besonders in Ostdeutschland gab es darauf eine gute Reaktion und in Westdeutschland laufen Aktionen, aber da ist also in dem Maßstab nicht so viel zu verzeichnen. Und muss mal sehen, was da weiterkommt. Also man sieht eben, dass trotz dieser zentralen Regelung Möglichkeiten bestehen, immer wieder in einzelnen Fällen das zu umgehen. Aber das, was jetzt kommt, also diese massiven Abschiebungen, da braucht es eine Reaktion. Also da wird man mit solchen Dingen dem Ganzen sowieso nicht her. Also die Frage ist wirklich brennend, wie du gesagt hast. Muss man sehen.
Merci, Birgit, sur ce résumé. Et je voudrais vraiment attirer l'attention que l'avantage de Strasbourg et du Conseil de l'Europe ou de ces points de rencontre, je pense cet avantage de pouvoir se voir une fois dans un après-midi venant un peu de partout et donner un certain nombre d'informations et cet échange, je pense que les citoyens et les citoyennes de partout devraient l'utiliser encore beaucoup plus parce que nous, on a en tout cas constaté dans le cadre de cette campagne que quelque chose qui est très difficile, c'est une coordination européenne. C'est très difficile. On aura certainement l'occasion d'en parler encore. Mais je remercie Birgit pour son intervention et je voudrais donner la parole à Michael Williams de Suède.
Thank you very much. We have heard a little bit about Swedish policy earlier today from Hans-Göran Frank. I should remind you that we do have, as one of the few countries in Europe, a legal provision to grant asylum to war resistors. Unfortunately, this provision only applies to wars between states and not to civil wars. And that means of the 80 or so conflicts in the world today, about 2 or 3 would allow people to qualify for protection in Sweden. The last few years, we have given 6 persons war resistor status. No one from former Yugoslavia has received this status. On the other hand, Sweden has a very good record on the European scene for granting people permanent residence permits. You have heard that we have granted, on humanitarian grounds in the main, permits to those Bosnians who came before we introduced visa requirements. Some of these Bosnians have been given de facto status, and a few have been given convention status. The vast majority have been given humanitarian status, and perhaps a number of them were not directly what one could call war resistors, but civilians caught in this awful conflict. Another tactic that Sweden has used is not to make decisions. We have frozen decisions for a long period of time to await developments in the former Yugoslavia. This means that people who actually did desert between a certain date when they admitted there was a war between Serbia, Montenegro, and Croatia, who could have qualified for this status, never had decisions made at that time. So when that conflict was over, in inverted commas, then we started looking at their cases from the point of view, do they risk in a disproportionate punishment for having deserted? That has been the only perspective so far in Sweden. If they risk disproportionate punishment, they could qualify at best for de facto status or at worst for humanitarian status. Sweden has sent people to various parts of former Yugoslavia to check what happens. They claim that no cases show that deserters have been punished more severely than they would have according to Swedish law, that the scale of punishment in the law is not used as it's stated, but that they use peacetime regulations and that there are fines meted out or short terms of imprisonment. And that is taken as sufficient grounds for sending people back. This means that Sweden pays no heed at all to the very important distinction drawn in section 171 of the UNHCR guidelines, where the international community has condemned war and a person has refused to commit an act that, had he committed it, would have been seen as a war crime. We have, therefore, most people who have just grounds for desertion are not being granted permits. We have put a lot of pressure on the government from NGOs. I belong to one of those that is very active in assisting asylum seekers. And we have succeeded a few months ago in changing policy on the humanitarian ground, but this has meant that many people who are deserters and have families who came at a certain time have been given protection, but not on grounds for desertion. The UNHCR position is very clear, and we have an interesting situation now where Sweden is at a point in time where it's going to decide whether it is going to accept less national sovereignty and pay heed to more international guidelines if we join the European Union. But consistently in the last few years, Sweden has rejected or paid very little heed to pleas from the UNHCR, resolutions from the European Parliament, resolutions from the Council of Europe. And we are working now on a specific case where Section 171 is very important. This case concerns a Serbian from Sanjak, Muslim, who during the conflict refused to carry out an order to shoot a Croatian who was imprisoned, who was a war prisoner. He was asked to do this by a Chetnik. He refused, and the Chetnik threatened him with a weapon. His friend knocked the weapon to one side, and they both ran away. They were shot at, and they returned fire. He later came to Sweden, and he has had his case dealt with at all levels and been rejected. But recently, his case was focused on in the media. UNHCR has made a plea, and what has helped a great deal is through the existence of the resolution, the European Parliament has taken up his case. We have so far received pleas directed to the Minister of Immigration, the Aliens Appeals Board, and even directly to the Prime Minister that the deportation order for this particular person not be carried out with reference to the resolution and also to other basic principles enshrined in the UNHCR position. From the European Parliament, there have been pleas from the ELDP group, from the PPE group, from the Green group, and from individual MEPs. There has also been an appeal from the Church of England, and all of these refer to the resolution that is the basis of our meeting today. And within Sweden, the peace movement has finally become very much more mobilized around this issue than ever before. And as Hans-Jan Frank mentioned, many well-known people have taken up a stance, both in this individual case, but mainly on the matter of principle. The argument put against giving deserters protection has been that we would, if we had it, we would encourage ethnic cleansing. That has been the European Union position too. We find this argument is deplorable because what we're doing, in fact, by sending people back, which we have done over the last few years, is making them available for continued ethnic cleansing, because as long as we as an international community can't stop it, then we are participating in it actively by sending people back. There is also the argument in the specific case at hand that had this person committed the crime, he could have been brought in front of the International War Tribunal and accused of contravening international law. But by refusing, he is also now being put in custody in Sweden. Fortunately, that yesterday or today, he has been released. He has been released because there are technical difficulties in carrying out deportation to Serbia. People mentioned earlier that Belgrade Airport is open now, but the Serbs are not willing to accept people at the moment. Negotiations are taking place, and it looks as if the next month or so, very little will happen in that area. Media attention was mentioned by others. This can be a very difficult factor because it can expose people. This person's family has been visited already by military police in his home country, and he's very worried about what might happen to them. The actions that we have taken then are reaching ahead. The European Parliament is preparing a resolution. One of the groups there is preparing a resolution which may be presented early next week. The Foreign Affairs Committee has taken up this case, and Mr. Matoutis has been in contact with Swedish representatives. The committee has urged the President of the European Union to contact the Swedish government with regard to this particular case and the general principle. So we feel that there is a very important decision going to be taken in Sweden. In the individual case, we want the appeals board to hand over the case to the government, because this can enable us to implement the UNHCR stipulation and change the course of treatment of war deserters in at least the Swedish context. And given Sweden's status internationally, it can help perhaps if we can take this step in the right direction. If we don't, if we, as in the case of dual nationality Bosnian Croats, send them back, we give a signal to other countries where there are many other Bosnian Croats that if Sweden does it, then it's okay for us to go ahead. That's, I'm afraid, what might be happening. But a few weeks ago, an NGO delegation went to Croatia and to Bosnia, and we were there the same time as our authorities. We met similar people, but we also met rejected asylum seekers. We have met deserters whom Sweden has sent back thinking they would be allowed to stay in Croatia. They have ended up in Bosnia. I have with me case records of these people who have been active in the war. They are now back there. We have managed through our report to force the authorities to send the case to the government, so we will reconsider this position. But all this work would not have been possible without the support from the European bodies then, the civilian ones through the European Civic Forum and the political ones. And it's. I would like to end up by quoting from one of the appeals that has been handed in. This case is not only of great importance, the one I mentioned, to those immediately concerned. It is also symbolic of whether the European Parliament's and the European Union's protestations about human rights and about the conflicts in former Yugoslavia are to be taken seriously, and about whether membership, potential or actual, of the European Union involves obligations to the most basic concepts of justice and morality. Thank you.
Excuse me, I'd like to just ask one question to our Swedish friend. The new commissioner in the European Commission will be Mrs. Gradin, who I believe is a former immigration minister. In view of the fact that this is quite now a hot issue in Sweden, do you think that this is a way, by a little bit concentrating on Sweden, that one could have more than an unusual impact, in fact, within the Commission and within the European Union, because of the presence of Mrs. Gradin as a new commissioner, specifically responsible for immigration?
You are perhaps jumping ahead of events yet. Democracy has to have its say in Sweden on Sunday, on the 13th, and the recent polls say that it looks a neck-and-neck thing. If Sweden says yes, then there is relevance in the question, but I think I would prefer not to give any answer at the moment.
Merci, Michael William. Je suis convaincu que dans la salle, il y a quelqu'un qui attend et qui va prendre tout de suite les documents, parce qu'il est dans une situation où il faut les documents qui ont été mentionnés juste à la fin de son intervention sur la situation en Croatie. Je vois que 17h05, on va donner la parole encore très brièvement au représentant du Comité de France, Marc Sarrazino. Et puis, je remercie Joseph Penker aussi, qui a eu jusqu'à présent la patience d'attendre pour faire l'intervention suivante après. Marc Sarrazino.
Je ne détaillerai pas aujourd'hui l'ensemble des activités des comités du Forum civique en France. Une douzaine de déserteurs ont été pris en charge par les comités. Ce sont les comités qui ont fait signer les 28 056 pétitions. Ce sont les comités qui ont obtenu la publication d'articles dans la presse nationale et régionale. mais d'autres activités sont plus particulières à la France. Par exemple, à la suite de notre intervention, M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, nous a écrit le 3 juillet 1994. Il ne peut y avoir d'expulsion de déserteurs. Deuxièmement, une concertation approfondie a été engagée entre les administrations concernées pour que puisse être apportée une réponse adaptée à la situation des déserteurs. À ce jour, nous ignorons les résultats de cette concertation. Nous avons déposé cependant 12 dossiers de régularisation de déserteurs en pensant que la concertation pourrait favoriser leur régularisation. Les comités de France ont également contacté leurs députés. Interpellé par M. Joseph Cliffa, député du Haut-Rhin, et par M. Gérard Sommade, député de l'Hérault, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, a répondu le 10 octobre 1994 par écrit dans le journal officiel que la mise à exécution des mesures d'éloignement déjà prises, soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Mais nous ignorons la date exacte de ce nouvel ordre. Et M. Charles Pasqua fait en ce moment même aménager de vastes camps d'internement dans le sud de la France pour interner toutes les personnes en situation irrégulière, mais non expulsables. Par ailleurs, nous avons cherché en France à faire signer l'appel de balle à de nombreuses villes. Plusieurs maires ont signé à titre individuel, Lutterbach, La Roche-sur-Yon, qui est une préfecture, Château-Arnoux, Aubagne, etc. Mais deux communes seulement ont obtenu une délibération de leurs conseils municipaux, Sisteron et Saint-Quentin-la-Poterie. Pourtant, le contre-pouvoir des communes est indispensable en ce domaine. Pour désobéir à un ordre criminel, il faut ensuite pouvoir se réfugier quelque part. Pendant la guerre d'Algérie, c'était Lausanne. Aujourd'hui, c'est plutôt Parme. Mais par exemple, en banlieue parisienne, grâce à l'appui de la municipalité de Saint-Denis et de son maire, M. Patrick Brauzek, nous avons pu obtenir la régularisation d'un déserteur d'origine serbo-croate. Cependant, la signature de l'appel de balle en France est freinée par la proximité des élections municipales et par l'impact médiatique du camp interventionniste pro-bosniaque mené par Bernard-Henri Lévy. Pour terminer, je voudrais dire que la dynamique créée par la campagne du Forum civique de solidarité avec les déserteurs de l'ex-Yougoslavie ne s'arrêtera pas aujourd'hui, le 9 novembre. De nouveaux comités continuent de se créer, de nouvelles réunions vont avoir lieu avant la fin de l'année. Et bien évidemment, nous allons continuer à aider les déserteurs que nous avons pris en charge. Mais compte tenu des événements en cours, nous n'échapperons pas probablement à un élargissement de la campagne vis-à-vis de déserteurs d'autres pays, en particulier de l'Algérie. Ne serait-ce que parce que les communes signataires de l'appel de balle se sont déjà organisées pour accueillir des réfugiés d'Algérie. Ceci implique une solidarité à l'intérieur du pays. C'est l'action de nombreuses associations comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la CIMAD, Amnesty International. Mais cela implique surtout une action en France contre les camps d'internement en cours d'aménagement. Ces camps permettraient de regrouper tous ceux qui n'ont pas de titre de séjour et ne sont pas pour autant expulsables. Ces illégaux qui n'ont commis aucun délit resteraient dans les camps pendant des périodes de 3 mois renouvelables. Cela n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas coexister dans un pays où les miradors poussent comme des champignons.
Voilà, merci Marc Saracino pour ton apport. Je voudrais donner la parole à M. Josef Benker, sénateur de Belgique. Et je veux dire que Marc Saracino a parlé aussi de demandes qui ont été posées au Parlement sur la question des déserteurs. Juste comme petite information, il y en a eu plusieurs pays dans lesquels, dans les parlements, soit nationaux ou régionaux, des demandes ont été posées par des députés. Et il y a ceci en France, en Espagne, et nous savons que M. Benker, en Belgique, a posé une question au gouvernement, je crois, concernant les déserteurs. Et la réponse, apparemment, elle a été assez choquante.
Oui, bonjour. Voilà, donc parce que je suis parlementaire, j'ai l'occasion évidemment d'interpeller, pas une fois évidemment, mais une bonne dizaine de fois, le gouvernement belge au sujet de sa politique extérieure et de sa politique d'accueil. Mais ça va depuis la vente d'armes jusqu'à l'accueil des réfugiés en général, et bien spécialement, alors une fois, je me suis un petit peu étendu plus largement sur l'accueil des déserteurs. Ceux-ci, évidemment, sont partout dans le monde dans une situation extrêmement difficile parce que, contrairement à ce qu'on croit, peut-être, ils se voient refuser le droit d'asile un peu partout. Et ils sont très souvent refoulés vers leur pays d'origine avec tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence sur place, évidemment. Alors, au départ, en Belgique, il y avait le droit d'asile qui était reconnu à un certain nombre de personnes qui entraient de la Yougoslavie vers la Belgique, mais c'était très, très limité. Il y avait au départ, la première année, peut-être 500, 600 personnes. Alors nous avons demandé qu'on accorde un statut plus facilement aux personnes qui venaient de Yougoslavie et qu'on ne fasse pas toute cette longue procédure qui dure des semaines, des mois, parfois des années pour être reconnus comme réfugiés en Belgique. Nous avions demandé qu'on leur accorde un statut spécial de personnes déplacées. Là, alors, l'administration a été un peu plus généreuse pendant un certain temps et un millier de personnes environ ont obtenu ce statut. Puis, quand on a vu que le nombre augmentait, le gouvernement a fait un petit peu marche arrière et est devenu de plus en plus sévère. Et alors, on a accordé le statut de personnes, donc de réfugiés politiques, uniquement aux gens qui étaient originaires de Bosnie-Herzégovine, en estimant que partout ailleurs, c'était le calme, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai et qu'il y a des tas de gens qui sont poursuivis dans ce pays. Les personnes qui arrivent en Belgique s'adressent à l'Office des étrangers qui statue après une interview, une première interview qui donne un premier résultat. On accorde le droit de réfugié à certaines personnes après une interview qui dure 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes maximum. Mais il y a à peu près 5 personnes qui font la demande qui reçoivent ce statut. 95% des personnes qui demandent ce statut voient ce statut refusé. Il faut savoir évidemment que la manière d'interviewer est tout à fait farfelue et déplacée, puisque souvent les Belges, évidemment, ne comprenant ni le macédonien ni le serbo-croate, on a alors des traducteurs, et parfois c'est un traducteur serbe qui doit en fait traduire ce que dit un bosniaque, et vous comprenez bien que les réponses qu'il donne ne correspondent pas toujours à la vérité, même si ce sont des traducteurs assermentés. En général, donc, ces gens reçoivent un ordre d'expulsion parce que leur demande ne correspond pas aux critères de la Convention de Genève. Mais en questionnant les gens, évidemment, on parvient à leur faire dire n'importe quoi. Et vous avez alors un certain nombre de femmes qui se voient refuser le statut de réfugié parce qu'elles ont suivi leur mari en Belgique. Et bien entendu, ce n'est pas un critère de la Convention de Genève pour accorder le statut de réfugié. Ou bien on questionne le type et on lui pose comme dernière question, tu as envie de travailler? Oui, oui, oui. Bien sûr, je ne veux pas vivre sur le compte des Belges. Je veux vraiment travailler. Et tu as déjà trouvé du travail? Oui, oui, un tel m'a aidé à trouver du travail. Donc, tu viens pour travailler? Mais bien sûr que je viens pour travailler. Je ne veux pas rester ici, on n'a rien à foutre. Alors, évidemment, sur son papier, après, on a inscrit, ça ne correspond pas aux critères de la Convention de Genève parce qu'il est venu en Belgique pour travailler. Et des tas de choses de ce genre-là. Et c'est particulièrement grave vis-à-vis des déserteurs, puisque si eux sont refoulés, évidemment, ils prennent des risques beaucoup plus importants. Et à ce niveau-là, j'avais interrogé une fois le ministre qui m'avait répondu que bien sûr, on ne va jamais renvoyer un déserteur. Le seul problème qu'il y a, c'est de reconnaître le déserteur des autres. Comment pouvez-vous reconnaître un déserteur? Ça, c'est la question qu'il me pose. Qu'est-ce que vous faites pour reconnaître les déserteurs? J'ai pas osé lui dire, il faut presque arriver avec une balle dans le dos pour juger qu'on est déserteur. Et alors, effectivement, n'est-ce pas, il me répond aussi que c'est vrai que les déserteurs, ce n'est pas vraiment des gens qui ont droit au statut de réfugié sur base de l'article 2 de la Convention de Genève. Mais de toute façon, on ne va pas renvoyer les gens dans leur pays. Ils doivent quand même prouver qu'ils sont déserteurs. Alors, comment prouve-t-on qu'on est déserteur quand on vient d'un pays pareil? On ne délivre pas dans ces pays des certificats de déserteurs, hein. Comment est-ce qu'on peut prouver ce genre de choses-là? Bon, c'est effectivement très, très difficile de travailler dans des conditions pareilles et d'interpeller nos gouvernements. On reçoit toujours des réponses avec lesquelles on ne sait pas faire grand-chose. Et à côté de ça, évidemment, il y a des tas de gens qui ont essayé de trouver des solutions et d'aider, des ONG qui ont essayé de travailler à ce niveau-là. Il y a eu des comités de défense de réfugiés qui se sont créés, un certain nombre d'organisations telles causes communes qui existaient déjà avant la crise yougoslave, qui a déjà existé à l'époque où Ceausescu, dans son pays, essayait de supprimer les villages. Et des communes en Belgique ont créé une opération qui s'appelait Opération Village Roumain, où on parrainait des villages en Roumanie. Et alors, quand la situation s'est dégradée en Yougoslavie, cette organisation s'est transformée peu à peu en cause commune. Ils parrainent, donc ils demandent à des communes belges de parrainer certaines communes en Yougoslavie, dans les zones où il n'y a pas de guerre pour le moment, évidemment. Et de parrainer les camps de réfugiés, et principalement à l'intérieur des camps de réfugiés, les écoles des camps de réfugiés. Parce que vous savez que les enfants réfugiés qui sont dans les écoles en Slovénie, les enfants bosniaques, par exemple, ne peuvent pas aller en classe avec les petits slovènes. Il pourrait y avoir d'influence, n'est-ce pas, négative, qui pourrait passer vers les enfants slovènes. La même chose en Croatie pour des enfants réfugiés de Bosnie. Alors, on aide ces enfants dans les écoles, mais on aide également l'école du village. Comme ça, peu à peu, les enfants des camps de réfugiés sont intégrés à l'école du village. Et si le directeur de l'école du village reçoit aussi de l'aide, il accepte plus facilement que les enfants de réfugiés viennent dans sa propre école. Voilà un petit peu le travail, les choses avec lesquelles je me suis débattu ces dernières années, et l'optique de l'opération Village Roumain en Belgique. Et par après, donc, l'organisation cause commune qui est héritière de l'opération Village Roumain. Je vous remercie.
Merci Joseph Penker. Nous avons prévu qu'on donne la possibilité aussi pour d'autres interventions encore. Je dois vous demander si vous souhaitez intervenir encore, et vous n'étiez pas cité au début de l'intervention, à part qu'il faudrait le faire savoir par un petit mot, par papier, parce que sinon, il est 17h19, on sera très juste. Je voudrais tout de suite donner la parole pour une très brève intervention, parce que je viens d'apprendre qu'il y a aussi Peter Leuprecht qui va venir ici, c'est le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe. On voudrait lui donner la parole ici parmi nous, mais avant donc encore Gotthard Klingler qui va nous parler brièvement du rôle des municipalités, donc pour commencer la troisième partie de nos débats de cet après-midi.
Ce troisième chapitre de cet après-midi est sous le titre d'une reconquête urgente du droit de cité par les communes, par le niveau local. Arrêtons l'heure avancée, je veux seulement faire une très brève réflexion. Poser plus ou moins la question, si on dit on veut revaloriser et reconquérir ce droit de l'accueil, de l'hospitalité qui est perdu en ce moment, vu du niveau local, je crois que la question la plus importante, c'est simplement se poser la question où d'où viennent les obstacles, où d'où peut venir un soutien positif. Si on pose la question d'une manière simpliste comme ça, il paraît tout de suite très clair que l'obstacle principal en ce moment vient des gouvernements, des États nationaux. Là, c'est très clair, c'est eux qui disent, même si pas eux qui peuvent accueillir qui que ce soit, c'est eux qui définissent les règles du jeu et ils peuvent bloquer presque tout, même si en dernier lieu, si on veut accueillir quelqu'un, ça dépendra toujours de la volonté des citoyens et citoyennes qui sont dans les communes. Alors je crois là, il faut se méfier énormément. Et la preuve, c'est qu'il n'y avait aucun État qui a répondu même, je viens au niveau plus positif, il n'y a aucun État, aucun gouvernement qui a même répondu au Parlement européen et au Conseil de l'Europe suite à leurs recommandations. Je crois là, c'est très clair que là, il y a des déclarations qui sont très bonnes, qui nous plaisent beaucoup. Mais le grand problème, c'est que jusqu'à maintenant, entre niveau local et niveau européen, il avait plus ou moins comme un blocage qui est constitué par les gouvernements nationaux. Alors je crois que c'est très important pour le débat des militants et des citoyens sur le niveau local de bien être clair que, premièrement, s'ils décident un droit de cité, ils sont en convergence totale avec nos élus les plus importants de l'Europe, qui est comme le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Ça, c'est important parce qu'on a vu que dans les débats, notamment en Allemagne, que des gens disent « mais ça, c'est du Moyen-Âge que vous proposez, c'est illégal, vous êtes complètement seul ». D'autre part, je crois qu'il faut souligner que s'ils peuvent avoir un contact avec les membres du Parlement européen et le Conseil de l'Europe, pour eux, c'est très important aussi à leur tour, parce que eux, trop souvent, ils sont complètement coupés des citoyens favorables à ce qu'eux, ils décident. Voilà, je crois, comme introduction, ça suffit. Je crois là, il faudrait bien réfléchir les alliances possibles, d'une part, niveau local, niveau européen, et d'autre part, la question serait comment on peut améliorer la coordination horizontale du niveau local, mais pas seulement à l'intérieur d'une nation, mais à travers les différents pays de l'Europe.
Merci, Gotthard Klingler, pour avoir été aussi bref. vraiment, parce que ça nous permet quand même de respecter notre horaire. Je voudrais attirer votre attention sur une publication qui est ici, sur le rôle des municipalités, qui a été justement, entre autres, écrit par Gotthard Klinglo. En trois langues, elle est à l'accueil et ça vaut la peine. Il n'avait pas le temps de développer tout ce qui est mentionné là-dedans. Et je peux vraiment vous recommander ce texte. Ça vaut la peine de le regarder de près. Tout de suite, la parole à Rudolf Breitmeister, qui va certainement nous faire un exposé pour le combat difficile qu'il mène en compagnie de son maire, Christian Ude, à Munich.
Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Also bitte, ich werde kein Referat halten, sondern auch nur ein ganz kurzes Statement. Ich glaube, dass wir in den letzten halben, dreiviertel Jahr in München versucht haben und auch klargelegt haben, dass es sehr wohl rechtliche Möglichkeiten für die einzelnen Städte, Gemeinden und Kommunen in der Bundesrepublik aufgrund der rechtlichen Lage gibt, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer vor einer Abschiebung zu hindern. Je dichter unsere rechtliche Argumentation wurde, desto heftiger wurde die Repression seitens der Aufsichtsbehörden, Rechtsaufsichts- und Fachaufsichtsbehörden in Bayern. Wir stehen nun leider gerade heute in der Situation, dass München ihre ganzen rechtlichen Bemühungen vergessen kann, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer weiter vor einer Abschiebung zu schützen, da wir seit Anfang September eben jetzt auch eine Weisung erhalten haben, dass wir diese rechtliche Argumentation nicht mehr anwenden dürfen, sondern dass Kriegsdienstverweigerer und Deserteure abzuschieben sind. Das betrifft natürlich in erster Linie die Kroaten. Wir haben vorher schon den Situationsbericht von dem Deserteur schon gehört. Also sind wir gezwungen, Kroaten ohne Einzelfallprüfung abzuschieben. Weit dramatischer wird es jetzt in Zukunft werden, nachdem in der Tat jetzt Belgrad immer mehr für Flugzeuge offen steht. Für die Kosovo-Albaner, wo wir in München etwa 3.000 bis 4.000 Kosovo-Albaner beherbergen, die nun in der Tat vor einer dramatischen Situation stehen, weil sie auch gehofft haben, dass die rechtliche Argumentation der Stadt München und das politische Eintreten vom Oberbürgermeister Ude ihnen eine Möglichkeit bietet, da bleiben zu können, auch wenn sie kein Asylrecht erhalten haben. Aber selbst diese Möglichkeit ist ihnen jetzt genommen worden. Mir ist ganz wichtig, vielleicht in diesem Kreis darzustellen, was so diese Diskussion und auch die Auseinandersetzungen, die in den letzten Monaten in München geführt worden sind, was die hervorgebracht haben. Das haben wir uns vielleicht in München auch gar nicht so sehr bewusst gemacht. Ich glaube, dass die Reaktionen gezeigt haben und die Diskussionen auch mit der Öffentlichkeit. Wir haben ja mit vielen, auch mit den Medien versucht, die Öffentlichkeit zu erreichen, dass das Thema Deserteure für das kollektive Bewusstsein eine ganz zentrale Bedeutung hat und eine größere Bedeutung hat, als man das allgemein annimmt. Im Bewusstsein vieler Menschen erscheint die Sicherheit eines Staates und damit auch ihre eigene persönliche Sicherheit bedroht, sobald niemand mehr gezwungen werden kann, in einen Krieg zu ziehen, den er nicht will. Das liegt sicher in unserer Gesellschaft, bei den Deutschen vielleicht auch daran, dass wir keine Alternative in der Diskussion zur Ordnung durch Gewalt haben. Sie wissen ja, dass wir in Deutschland gerade stolz darauf sind, mit Out-of-Area-Diskussionen beladen, den neuen Einsatz der Bundeswehr zu diskutieren. Und in dieser Atmosphäre eine Diskussion mit der Öffentlichkeit zu führen über Desertion ist besonders schwierig. Das ist nun jetzt, das habe ich gemerkt, auch in dem Dialog mit meinem Oberbürgermeister, für einen Politiker von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Wenn er merkt, dass sein Eintreten, sein politisches Eintreten, sein Hervortreten aus dem Kreis auch anderer Oberbürgermeister, die sich da nicht so zu Wort gemeldet haben, dass das keinen Widerhall in der Bevölkerung findet, sondern im Gegenteil Ängste hervorruft, und er nur den Widerhall erhält von den Leuten, von denen er weiß sowieso, dass die hinter ihm stehen und von denen er sowieso wusste, dass sie zu ihm halten. Aber eine breite Öffentlichkeit immer stärker sich artikuliert, dass das eigentlich nicht ginge. Wo führt denn das hin? Selbst Politiker aus FDP-Bereichen, denen man nun oft liberale Gedanken zumindest in Deutschland noch anhaften wollte, führten solche Diskussionen, dass das, wohin führe denn das, wenn wir auf Desertion und Kriegsdienstverweigerung, so wie wir das rechtlich versucht haben durchzusetzen, reagieren würde. Also das war zu spüren, dass die Reaktion auch in den Medien und insbesondere in öffentlichen Diskussionen so war, dass der Druck, der politische Druck, der Meinungsdruck sehr, sehr negativ war. Und das ist etwas, auf das wir uns einstellen müssen. Es ist uns nicht gelungen, in der Auseinandersetzung mit dem Innenministerium und mit der Regierung von Oberbayern ein Klima in der Stadt München zu schaffen, was wir uns gehofft haben, dass der Bürger so argumentiert, dass er eigentlich stolz darauf ist, Fremden, Nichtdeutschen die Sicherheit zu geben und dass er selber das Gefühl bekommt, dass er so mutig ist, anderen zu helfen, die sich weigern, an einem Krieg teilzunehmen. Also da sind wir zurückgeworfen worden. Das ist natürlich etwas für einen Politiker, was sehr schmerzhaft ist. Das ist für mich als Beamten weniger schmerzhaft. Ich kann weiter bei meiner Linie bleiben, aber ein Politiker fängt natürlich dann an, schon darüber nachzudenken, ob das eigentlich weiter betrieben werden kann, was er, glaube ich, sehr gut und sehr richtig angezettelt hat. Die einzige Hoffnung, die wir eigentlich jetzt in München noch haben, ist die, dass wir eine, in Anführungsstriche, moralische Instanz noch auf unsere Seite ziehen. Das sind die Kirchen. Die Kirchen in München haben natürlich auch eine besondere Rolle, sind nicht gerade der politischen Ausrichtung des Oberbürgermeisters und meiner besonders zugeneigt. Aber dennoch, glaube ich, können die Kirchen dazu gewonnen werden, in dieser sicher für viele junge Leute dramatischen Situation, sich stärker als bislang zu Wort zu melden. Also das wird meine Linie sein, nachdem wir mit dieser rechtlichen Argumentation gescheitert sind. Im Gegenteil, ja jetzt Weisungscharakter und nur noch Vollzugsorgan sind, der Regierung von Oberbayern, des Innenministeriums, dass wir verstärkt auf die Kirchen zugehen werden und in den uns wichtig erscheinenden Fällen Kirchenasyl und andere Möglichkeiten, auch engagiertes Eintreten von anderen Bürgern, die sich dann weigern, einzelnen Deserteuren dann eben nicht die Abschiebung zu gestatten. Ich weiß nicht, inwieweit dann das Innenministerium hier noch weitergehen wird. Da brauchen wir sicher die Solidarität der anderen Städte. Das ist sowieso etwas, was ich mir viel mehr wünschen würde, dass die anderen Städte, die anderen Kommunen den Handlungsspielraum, den sie, glaube ich, haben, und den sie vielleicht viel stärker haben als wir, die wir in Bayern leben, dass sie unsere rechtliche Argumentation übernehmen, als Beispiel im Grunde genommen, dass andere Städte dann das vollziehen, was wir eigentlich ganz gerne vollzogen hätten, mit der Duldung oder Toleranz anderer Landesregierungen oder anderer Innenminister. Wir haben Ende November eine große Innenministerkonferenz am 30. November. Da werden wir selber als Stadt vorstellig werden. Gemeinsam mit dem UNHCR versuchen wir, unsere Position nochmal darzustellen. Ich hoffe, dass andere Städte Ähnliches versuchen zu unternehmen und ich hoffe auch, dass die Kirchen auf die Innenministerkonferenz in Deutschland einwirken werden. Aber Sie wissen, die Innenministerkonferenz kann nur einstimmig beschließen. Bayern spielt immer eine besondere Rolle in diesem Bereich. Und wenn ein Land sich querstellt, können keine Beschlüsse gefasst werden. Es sind dann immer nur Möglichkeiten gegeben, für einzelne Länder für einen kurzen Zeitraum separate Wege zu bestreiten. Andere Länder haben das ja schon gemacht. Für Bayern sieht es jetzt ein bisschen schwieriger aus und für München insbesondere. Mir bleibt nur noch der Weg der Öffentlichkeit. Und da hoffe ich also weiter auf die Unterstützung des Bürgerforums, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte, auch im Namen des Oberbürgermeisters. Es hat uns sehr gut getan und wir haben das auch öffentlich gemacht, in den Pressen und den Medien, wie breit die Unterstützung für unsere Kampagne oder für unsere rechtliche Argumentation war. Aber es war eben auch so, die Reaktion, das sind alles Unterstützer im Grunde genommen, die ja so denken wie wir. Das sind Gleichgesinnte. Aber die anderen, die leider Gottes bei uns in der Überzahl sind, die konnten bis dato nicht überzeugt werden. Und auf die kommt es leider Gottes für mehrheitsabhängige Politiker eben doch immer stärker drauf an. Recht herzlichen Dank.
Merci, Rudolf Breitmeister. Je pense Gianfranco Schiavone qui ici il a parlé d'un papier qui peut aussi encore intéresser les Munich sur justement l'action que les villes italiennes peuvent mener. On va en parler tout à l'heure encore avec les amis de Parma qui sont ici. Je voudrais aussi saluer l'arrivée de Peter Leubrecht, le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, qui est parmi nous. Je me permets, avant de lui donner la parole, de donner la parole à Heinz Fracke, pardon, qui est responsable du département social de Erfurt et qui est venu ici. L'action de Erfurt mérite vraiment l'attention puisqu'elle dépasse largement de ce qu'on vient d'entendre. de Munich, ça veut dire ils ne sont pas entourés de la Bavière.
Vielen Dank. Einiges von den Problemen, die uns in Erfurt angehen, sind, ist schon genannt worden aus München und aus Berlin. Aber ich denke, ich kann zumindest eine kleine Unterstützung nach München signalisieren, weil die Stadt Erfurt diesbezüglich einiges unternommen hat. Zunächst möchte ich feststellen, dass der Umgang mit Flüchtlingen, besonders für Deutsche, die vor über 50 Jahren selbst Flüchtlinge waren und weltweit Hilfe erhielten, bisher sehr beschämend ist. Deshalb fordern wir von der Bundesregierung, dass sie den besonderen Status der Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge anerkennt, wie ihn die Genfer Konvention festgeschrieben hat. Von unserer Thüringer Landesregierung fordern wir die Herausnahme der Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge einschließlich der Deserteure aus dem Asylverfahren und eine Duldung ohne drohende Abschiebung, solange der besondere Status der Flüchtlinge durch Bundesgesetz nicht geregelt ist. Welchen Beitrag können nun die Kommunen weiterleisten? Sie müssen auf politischem Weg ein Flüchtlingsgesetz einfordern und auf bestehende Notlagen hinweisen. Diese Zielstellung kann nur erreicht werden, wenn die Städte vereint auftreten und ihr kommunaler Spitzenverband, der Deutsche Städtetag, sich dazu bekennt. Die Kommunen müssen sich auf die Anerkennung der Flüchtlinge vorbereiten und soziale wie auch wirtschaftliche und finanzielle Voraussetzungen für die Verwirklichung des Bleiberechts von Flüchtlingen schaffen. Was hat die Stadt Erfurt dafür getan? Sie hat sich prinzipiell bereit erklärt, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Praktisch war es bisher nicht möglich, weil in Thüringen alle Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge im Asylverfahren sind und nicht kommunal gesondert behandelt werden können. Sie hat sich gegen die Abschiebung von Deserteuren ausgesprochen und entsprechende Voten an die Landesregierung, an den Deutschen Städtetag und an Thüringer Gemeinde- und Städtebund gerichtet. Sie hat sich anlässlich einer Podiumsdiskussion am 6. Juli 1994 im Rathaus dem Basler Appell angeschlossen und dem Regionalkomitee Thürings Unterstützung zugesagt. In Thüringen haben sich weiterhin die Stadt Jena, die Stadt Weimar, die Stadt Schmölln beim Innenminister für ein Bleiberecht von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern ausgesprochen. Und auch thüringische Hochschulen haben sich bereit erklärt, Deserteure bevorzugt zu immatrikulieren, wenn die Voraussetzungen dazu gegeben sind. Das Beispiel des Kirchenasyls in Jena, 50 Armenier fanden mehrere Monate eine schützende Bleibe, hat gezeigt, dass Teile der Bevölkerung, die Kirchen und andere Verbände bereit sind, mit außerparlamentarischen Mitteln den von Abschiebung ins Kriegsgebiet bedrohten Menschen Hilfe zu leisten. Auch wenn ein Oberbürgermeister das Rathaus Flüchtlingen und Deserteuren nicht als Zuflucht zur Verfügung stellen kann, so bleiben ihm andere Möglichkeiten des Protestes und der Unterstützung. Vor unserer Abreise nach Straßburg gab es in Erfurt eine Pressekonferenz mit dem Regionalbüro Thüringen des Komitees, zu der wir auf die in Thüringen von Abschiebung bedrohten Kriegsflüchtlinge und die heutige Übergabe der Unterschriftenliste hingewiesen haben. Parallel dazu hat die Stadt Erfurt die Anreise von Herrn Goran, wir haben ihn vorhin gehört, aus einem Asylbewerberheim in Thüringen mit ermöglicht, sodass er heute hier ist und über seine Situation sprechen konnte. Morgen werden wir gemeinsam nach Thüringen zurückfahren und in einer weiteren Pressekonferenz über die Eindrücke unseres heutigen Tages berichten und die Ergebnisse des Europäischen Bürgerforums darstellen. Ich denke, das ist ein Beitrag dazu, dass sich doch noch weitere Städte den 5 Punkten des Basler Appells anschließen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Merci beaucoup, Heinz Fracke. Je voudrais demander Wolfgang Richter de Rostock s'il veut encore pour qu'on puisse, disons, terminer sur les interventions de la part des représentants de l'Allemagne et de la situation en Allemagne en RFA. Est-ce qu'il voudrait encore ajouter quelques éléments à ce qui a été présenté de la part de Rudolf Breitmeister et de Heinz Fracke?
Meine Damen und Herren, es war in Rostock eine gute Erfahrung, dass es möglich gewesen ist, dass eine kleine Gruppe von Studenten, die eine Initiative zum Schutz von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren ins Leben gerufen hat, in unserer Stadt eine solche Wirkung erreichen könnte. Es ist über eine Veranstaltung in der Stadt, wo also dieses Thema sehr breit diskutiert wurde mit Vertretern von Parteien der Bürgerschaft der Stadt Rostock, möglich gewesen, diese Initiative auf eine parlamentarische Ebene zu heben.